Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition consacrée à la série The Bad Batch. Aujourd'hui, nous allons parler des épisodes 14, 15 et 16 qui forment l'arche narrative de la fin de cette saison 1. Donc, je suis Loïc. Ce soir, je suis accompagné de Aude. Bonsoir, Aude.
Bonsoir.
De Sylvain. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Et nous serons rejoints également en cours d'émission par Thomas, dès qu'il sera prêt. Voilà. Eh bien, on va faire notre petite tradition, le WhatsApp Star Wars. Donc, honneur aux dames. Aude, est-ce que tu as quelque chose à nous partager autour de ce que tu as geeké de Star Wars en ce moment ?
Oui, absolument. Alors, j'ai fini, enfin, le Battlefront, les Squad Inferno, le roman, que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis un petit peu de temps à mettre dedans, mais après, j'ai beaucoup aimé. Donc, pour vous donner envie de le lire, en fait, c'est une mission d'infiltration, et c'était vachement sympa. Et j'ai entamé, du coup, En pleine ténèbre, de Claudia Gray, il y a 2 jours, et j'accroche beaucoup mieux que La lumière des Jedi.
Voilà, je te rejoins totalement.
Le ton est différent, je sais pas, le fait que ce soit écrit par quelqu'un d'autre ou par une femme ou les deux. Et non, ça me donne envie de continuer. Je comprends que le contexte soit le même. Donc, dès qu'on reparle un peu des événements de La lumière des Jedi, je me dis, ah non, on va pas retomber dedans, dans le côté dramatique titanique. Mais bon, je m'accroche plus aux personnages et au discours des personnages qui sont parfois assez légers malgré la tragédie dans le fond, et j'aime beaucoup, pour l'instant.
Et voilà, de la littérature, de la littérature, de la littérature. Et est-ce que tu as joué à Battlefront 2 également ?
Oui, absolument. Oui, c'est pour ça que j'ai bien aimé le roman, parce que j'aimais beaucoup le personnage d'Iden Versio.
Oui, voilà, t'es attaché à Iden aussi,
ouais,
à travers le jeu.
J'ai bien aimé la campagne avec toute son histoire qui se passait sur plusieurs années, sur plusieurs camps. Finalement, ça m'avait beaucoup plu. Donc, cette ambivalence-là, du bien, du mal, du bon camp, des gentils, des méchants, dans le roman, on la retrouve énormément. Et c'était pour tous les amoureux de l'Empire qui aiment toujours savoir plus de ce qui se passait dans l'Empire, on se régale.
C'est vrai, surtout dans la première partie.
Oui, après, on est plus dans la psychologie des personnages et leur allégeance.
Oui. Est-ce que c'était tout pour ton WhatsApp ?
Absolument.
Sylvain, à toi.
Eh ben, pas grand-chose de geekery Star Wars depuis la dernière fois, à part que j'ai fait quelques tours de Star Tour. J'ai profité du début de mes vacances et d'un gros créneau dans mon planning professionnel pour... aller à Disneyland, Paris, en France, et faire quelques tours de Star Wars. Et l'avantage de la pandémie, c'est qu'il n'y a pas grand monde en ce moment. Donc les files d'attente, elles sont vraiment extrêmement réduites. C'est le seul truc de geek Star Wars que j'ai fait. Sinon, quelques autres trucs geeks.
Donc, Sylvain nous montre une tasse qui n'a aucun rapport avec Star Wars et qui est siglée du logo de la TVA de la série Loki.
Je me la pète, parce que celle-là, normalement, vous ne pouvez pas être beaucoup à l'avoir vue. Donc,
non.
Je me la raconte. J'ai la veste de Loki. Nananer.
Est-ce qu'elle te va ?
Ouais. Ouais, elle est un peu longue au niveau des manches, mais vous voulez que tu veux que je la mette ? Parce que t'es pas obligé de me croire que je l'ai.
Non, moi je le sais parce que je l'ai vu, tu nous l'as posté le kit presse en photo. Mais voilà, pour nos auditeurs, je confirme que Sylvain est bien possesseur de cette veste.
Pour la petite blague, je la portais quand j'étais à Disney. Il y a 2 Américains, 1 Allemand et 4 Français qui m'ont arrêté qui m'ont demandé où avoir la veste. Et autour de moi, j'entendais des gens, justement, qui disaient « c'est la veste de Loki, machin, donc je suis... »
La star.
Oui, je sais, je me la suis pété, mais héros. Hein. Téléphone.
Pardon, c'est...
Ah bah tiens, on a notre comparse Tom. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, vas-y.
On l'accepte.
Intègre-le, comme ça, il pourra...
on ne demande pas l'avis du public.
Non, comme ça, on pourra faire son WhatsApp Star Wars tout de suite.
Eh ben, je l'amène. 3, 2, 1.
Voilà, c'est presque du live. Voilà, salut Tom.
Salut, une apparition de la force.
En retard.
Un petit retard pour Tom, mais Tom va tout de suite enchaîner avec son WhatsApp Star Wars, s'il te plaît.
N'est-ce pas? Je suis en train de lire une épreuve de courage. Donc, il s'agit du pocket Bibliothèque Verte. Quand les gens me le voient le lire, se foutent toujours de ma gueule. En vacances, on était avec des potes, je l'ai sorti, tout le monde était mort de rire. On me dit, mais c'est le bouquin de tes gosses? Non, c'est le mien. Donc, j'explique qu'il y a une continuité, que je suis complétiste. C'est un peu chiant, hein. L'histoire, c'est un peu chiant, on va être honnête. Par contre, le truc super sympa, je trouve que ça développe bien la notion de force et son aspect pratique et l'aspect un petit peu philosophique. Donc, il y a ces éléments-là qui sont bien et le fait de développer des persos jeunes, ça, je trouve que c'est cool. Donc, voilà. C'est mon WhatsApp et j'en profite, je fais juste un tout petit aparté dans mon WhatsApp. J'ai regardé les Maîtres de l'Univers Révélation. Et c'est dingue, j'ai adoré, même si on a des critiques un petit peu anti, soi-disant que c'est pro-LGBT, je sais pas quoi, que c'est pour les gonzesses, machin, je suis pas du tout d'accord, c'est génial, c'est tellement bien adapté, c'est bien caractérisé, et pour une fois, on a mis Musclor et Skeletor de côté, et ça fait du bien pour une fois de mettre un peu les persos secondaires au premier plan, donc allez-y, c'est génial, c'est sur Netflix.
Merci
je
Tom.
Je suis de ton avis. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils ont coupé, comme chez Netflix, ils ont coupé la saison 1 en 2.
Ah, ça fait envie, hein.
Et voilà, je veux la suite, parce que c'est pas fini. Et c'est vrai qu'elle me plaît beaucoup, j'avais beaucoup de craintes. Bon, la bande-annonce sur le Bonnie Tyler, moi, m'a éclaté. mais le principe même de cette début de série m'éclate, et je trouve que c'est très bien fait. Et j'adore, quoi.
Ouais, et justement, comme tu disais, moi, j'ai vu des gens, des critiques qui balançaient sur ce truc. Vraiment, il y a des haters du nouveau Maître de l'Univers. Mais je trouve que c'est tellement au-dessus. Et ils sortent des clichés des Maîtres de l'Univers, justement, qui étaient dans le virilisme à l'époque. Où là, vraiment, c'est cool, quoi. Et sans se dédire, donc, c'est très, très bien.
Ouais, et puis, c'est très bien réalisé. C'est Mark Hamill qui fait Skeletor. Donc, il est tous... avoir un contact rapproché avec vos mamans, hein, si vous n'aimez pas, et puis c'est tout. Voilà.
Bon, je le prends pas pour moi.
Ah, merde.
Pour ma part, sur mon WhatsApp Star Wars, on sera aussi sur la littérature, puisque j'ai fini Poe Dameron, Chute libre, que j'ai bien apprécié, qui est vraiment très, très dispensable, mais qui était vraiment très sympathique. Et je voulais justement en parler, parce que j'ai... Certains romans, et on en avait discuté sur notre fil Discord, Aude, certains romans, c'est plus difficile de parfois d'entrer dedans ou de se laisser porter par l'histoire. Et donc, notamment pour celui-ci, j'ai mis des écouteurs, en fait, et je me suis lancé de la musique Star Wars en fond pour accompagner, en fait, mon récit, pour faire comme une sorte d'audiobook, mais qui ne serait pas lu, puisque c'est moi qui le lis, mais pour augmenter l'ambiance Star Wars et m'aider à plonger dedans. En fait, j'ai choisi aussi une musique qui n'est pas trop Star Wars, c'est-à-dire que si c'est une musique que l'on connaît très bien, c'est-à-dire, on va dire, les neuf épisodes numérotés, Solo, Rogue One, je vais avoir tendance à laisser mon esprit vagabonder sur la musique et avoir du mal à capter le fil des écrits. Par contre, on a beaucoup de productions musicales de Star Wars qui sont beaucoup plus mineures, et qui sont très utiles dans ces cas-là. On a notamment la musique de Shadow of the Empire, la musique de Star Wars Squadron, la musique de Battlefront, peut y avoir de la musique de Old Republic, pour éventuellement accompagner la Haute République. Donc voilà, pour moi, c'est une petite astuce qui aide, je trouve, à se plonger parfois dans le récit. Moi, j'ai déjà prévu pour le volume 2 de l'Escadron Alphabet de me mettre la musique de Squadrons, justement, voilà, pour accompagner et m'aider encore plus à plonger dans le récit. Donc voilà.
C'est
voilà,
une musique que tu trouves où ?
C'est vrai que ça peut être marrant comme concept, en fait.
Eh ben, les musiques, tu trouveras tous les albums sur YouTube, hein, notamment. Alors évidemment, si tu les écoutes sur YouTube, tu seras quand même coupé par la publicité, donc c'est quand même moins sympa. Mais il me semble qu'elles sont toutes disponibles à l'écoute sur les plateformes de musique.
D'accord.
Spotify, Deezer et autres.
Ouais. À vérifier quand même pour être sûr. Ouais. Mais voilà, moi je sais que je les mets sur YouTube, puis ben quand arrive la pub, je passe, c'est pas grave, c'est pas si, il y en a pas tant que ça non plus quoi, pas sur ces albums là.
D'accord.
Voilà, on va faire un petit tour avant de commencer notre émission sur les plus récents podcasts de Star Wars en direct. Donc vous pouvez retrouver deux épisodes littérature en compagnie de Francis, Thomas et de moi-même où on chronique les volumes 1 des séries Star Wars et Vador post-Empire contre-attaque, et puis deux émissions de Bad Batch qui sont consacrées donc aux épisodes précédents, les épisodes que nous allons chroniquer ce soir. Et avant de partir en hyperespace, on vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir et montrer vos couleurs, de très beaux produits sont disponibles sur notre boutique à l'adresse starwars.direct/boutique, et on fait un grand merci à Dany pour tous ces beaux designs. Et sur ce, on passe en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Chers auditeurs, je sais que vous attendez tous ce moment avec grande impatience. nous allons passer donc la parole à Sylvain qui va nous résumer les trois épisodes dont nous allons parler ensuite. Sylvain, c'est à toi.
Ah, ma partie préférée dans la série. Donc, pour cette émission, ce sont les trois derniers épisodes, l'épisode 14, 15 et 16. On va commencer avec l'épisode 14 qui s'appelle Griffe du guerrier et en VO War Mantle. Et pour une fois, je préfère le titre VO parce que Griffe du guerrier, je trouve que ça fait naze. T'as l'impression que c'est un truc que tu sors sur un biscuit chinois sur un paplard. Ça a l'air d'une position du yoga ou d'arts martiaux à la con. Bref, donc dans War Mantle, on a la Bad Batch qui est contactée par notre très cher et très adoré Capitaine Rex pour leur demander de porter secours à un clone sur la planète Dao, et pas Danone. Non, c'est ni Étienne. Voilà, j'ai placé toutes mes vannes pourries. Parce que,
j'espère Rex... que t'en as pas trop, hein, des vannes pourries, sinon ça va nous parasiter.
Ah bah, ils savaient qu'il n'y a pas appelé leur planète Dao aussi. Hein. Parce que Rex a reçu un signal de détresse d'un clone en particulier. Hunter, il est pas content parce que, à part savoir qu'il y a un clone en détresse sur la planète Dao, il a pas d'autres renseignements. Donc, il est pas joisse pour y aller, mais vous inquiétez pas. Omega, non, je déconne. Pour une fois, c'est Echo qui a des arguments et qui finit par aider Hunter à prendre sa décision d'être un bon petit clone et d'aller aider. Pendant ce temps, sur Kamino, c'est pas la joie. Tiens, j'ai oublié de mettre les captures d'écran. Voilà, ça, c'est le clone qui est en détresse. Ça, c'est Rex et toute la clique. Et donc, voilà. Sur Kamino, comme on vous disait, c'est pas la joie puisque l'Empire est en grande manœuvre et elle est comme Scarlett et Disney, Arasili, les contrats. Lamassu n'est pas non plus très confiant, hein, puisque tous les clones, même les petits, sont évacués. Tout est fermé, donc il se doute qu'il y ait un os qui va lui tomber dessus très 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 vite. Pendant ce temps-là, nos comparses partent en camping sur Dao et vont faire de l'exploration et de la grimpette. Et au bout de quelques centaines de kilomètres de montée, tombe tout simplement sur une base secrète, qu'elle est née secrète, qu'elle est bien plantée à l'intérieur de la montagne. Et surtout, ils font une découverte assez étonnante. Ils tombent sur des clones troopers, des vrais RC commando, qui sont en train d'instruire un tout nouveau type de soldats, les KT troopers, reconnaissables. Alors, nouveau casque, encore une fois, inspiré des dessins préparatoires de Christopher McCarrie, si je prononce tout ça bien, tout bien.
Ralph.
Ralph, pardon. Christopher, c'est le cinéaste. Bref, notre escouade est en repérage. Ils tentent d'infiltrer le plus soigneusement et le plus discrètement possible la base pour aller récupérer le soldat en détresse qui s'avère être un Gregor, un RC Trooper, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas spécialement apprécié la tournure des choses et qui a voulu déserter. Donc s'ensuit quelques petites pérénégrations à travers les couloirs et surtout les sas d'évacuation de la base, où on a d'un côté les TK troopers et les clones commando qui tirent à balle réelle sur la Bad Batch et le traître pour s'enfuir, et la Bad Batch qui, elle, utilise des armes paralysantes, les modes paralysants de leur arme pour s'enfuir. Grâce à ça qu'ils s'aperçoivent que les TK troopers ne sont pas des clones mais sont des conscrits, et suite à cette petite bagarre, et tandis que Omega et Wrecker sont à bord du vaisseau pour permettre à tout le monde d'évacuer, eh bien ils sont obligés de laisser Hunter derrière eux, qui est rapidement capturé. Et ils sont pas spécialement jouasses la Bad Batch. Quant au Camino 1, et ben c'est de pire en pire, puisque l'amiral Rempart a découvert que les Camino 1 ont tenté de se carapater. Pendant que là, ce qui fait que la Massou essaye faire porter la responsabilité de cette fuite à la Nassau, Rempart lui fait comprendre qu'un scientifique peut être encore utile, ce qui n'y est pas le cas d'un politicien. Et la scène finale, c'est nos deux gentils frangins qui se retrouvent chacun d'un côté d'une jolie prison. Ça s'annonce bien comme fin de série, hein, vous trouvez pas? Ah, c'est gentil comme ambiance.
C'est sombre.
Ah ouais, grave. Eh bien, là, on attaque vraiment la dernière ligne droite avec un dernier double épisode, le 15 et le 16, qui se passe sur Camino, qui s'appelle en français Retour sur Camino, donc Return to Camino, qui commence quasiment là où s'est terminé l'épisode précédent, avec Crosshair qui ramène Hunter à Tipoca City. Et en plus de ça, et ben le petit Crosshair, il est un petit plaisantin, puisqu'il active le communicateur d'Hunter pour permettre à la Bad Batch de les retrouver. Bref, il leur tend un piège, quoi. Et devinez ce qui se passe. La Bad Batch tombe dans le panneau direct. Ils vont. Sauf que, oui.
Ils sont quand même au courant que c'est un piège.
Oui, mais quand t'es au courant que c'est un piège, t'es pas obligé d'y aller non plus.
Ils vont faire en sorte justement de contourner le piège. Et bon, c'est
oui,
là
ça.
Que.
Ah oui, ça marche. Donc ils vont sur Camino. Ils utilisent une plateforme secrète, qu'elle est juste connue par Omega. C'est une plateforme secrète qui est planquée sous la surface de l'eau. Ils y vont avec leur navette tombe sur un laboratoire secret qui n'est secret, qui n'est connu que d'Omega. Et là, il retrouve, et pour la petite histoire, c'est aussi le laboratoire qui n'est connu que d'Omega, qui a vu la conception d'Omega et de la Bad Batch. À l'intérieur de ce laboratoire, il retrouve le petit droïde sympathique Asie, qui lui aussi, s'entend le vent tourner, essayait de se planquer, hein, parce que il est pas con, le père droïde. Et il les informe de la situation, que les clones sont évacués, que les clones ont été évacués, que Typoca City est quasiment vide et que l'ascenseur l'espèce d'ascenseur sous-marin qui relie Typoca City à ce laboratoire secret est encore secret et est encore alimenté, de pouvoir directement arriver dans la cité pour tenter de libérer Hunter. S'ensuit une petite conversation entre Crosshair et Hunter sur qui c'est qui est le meilleur, qui c'est qui est le plus grand et le plus beau des soldats. Les deux frangins ne sont absolument pas d'accord. Et là, il y a un petit plan tout sympathique puisque Crosshair amène Hunter sur le champ d'essais de tir, de simulation, sans doute pour l'exécuter, et le reste de la Bad Batch va prendre l'ascenseur pour venir en aide à leur frère et chef. Crosshair et Hunter continuent à discuter, hein. Ce dos-là, ils partiront pas en vacances ensemble. Jusqu'à ce que, retournement de situation, Crosshair abat ses hommes et tente de régler le tout pour le tout avec ses frangins. Pendant ce temps-là, Omega a une super idée, déclencher des protos d'Arc Trooper dans la salle de simulation, pour foutre le bazar, pour permettre la sortie et l'évacuation de Hunter. Sauf que ça se passe pas terrible, il y a beaucoup trop de troopers, il n'y a plus d'ennemis, et donc la Bad Batch, avec Crosshair, est obligée de se battre pour survivre et pour évacuer. Ce qui se passe globalement bien, et là, on a enfin la Bad Batch au complet qui bataille. On n'avait pas vu ça depuis... l'épisode 1, ouais, c'est ça. Et là, il y a une petite subtilité, parce que Crosshair est neutralisé par Hunter, il lui fait faire un gros dodo, et pendant qu'ils évacuent tous, eh bien, on a le monsieur Tarkin qui passe un coup de bigot à monsieur Rempart, et qui décide tout simplement de pulvériser Typoca City. Vous la sentez bien, l'ambiance, là? Et c'est comme ça qu'on commence le dernier épisode de cette saison, hein, qui porte bien ce nom, Kamino Lost, ou La Perte de Kamino, qui commence exactement là où l'autre s'était arrêté. L'Empire bombarde Typoca City, qui commence littéralement à plonger dans l'océan, mais très très vite, hein. Pour une fois, les tirs sont précis et défoncent tout. L'effondrement de la cité provoque la séparation du groupe, avec Omega, Asie et Crosshair d'un côté, le reste de la Bad Batch de l'autre. Vous imaginez bien que Crosshair, il est content d'être guidé par une gamine de 8 ans. Grâce à Asie, ils arrivent quand même à se déplacer malgré l'effondrement de la cité. Ils manquent quand même de se noyer plusieurs fois. Et quand la cité arrive enfin au fond de l'eau, ils sont un peu tranquilles. Ils ont quelques minutes de répit avant que le niveau de l'eau monte, et ils entreprennent tout simplement de percer les murs, les sols, pour retourner dans le tunnel ascenseur secret pour retourner récupérer le vaisseau. Le petit problème, c'est que le tunnel est endommagé, il n'est pas électrifié, donc ils vont devoir faire le trajet à pied, avec en plus les débris de la cité qui continuent à tomber, hein. Et puis surtout, il fait noir, Asie n'a plus de courant, il commence à manquer d'oxygène, l'eau monte, et il y a des grosses bestioles partout dehors qui commencent à vouloir boulotter tout ce qui se présente. Donc la situation est de pire en pire à chaque mètre. Quand la Bad Batch arrive enfin dans l'ancien laboratoire, et ben là ils sont un peu bloqués aussi puisqu'il n'y a toujours pas d'électricité. Donc ils décident tout simplement d'utiliser des anciennes cuves, des anciennes cuves de clonage pour se mettre à l'intérieur. Tenter de remonter à la surface, de repopper. Hein. Comme vous prenez un œuf Kinder, vous prenez le jouet, la capsule en plastique, vous la fermez, vous la mettez au fond du bain, vous voyez que ça remonte parce que c'est rempli d'air, ils veulent utiliser la même technique. Crosshair, il boude un peu dans son coin parce que la technique, en fait, et le plan, il est encore préparé par Omega. Hein, qui sort ma phrase pétiche, c'est quand même pas une gamine de 8 ans qui va nous dire quoi faire. Sauf que si, ils le font, et comme de par hasard, tout le monde remonte à la surface globalement sans trop de problèmes, sauf Omega, qui ne survit que grâce au sacrifice d'Asie, qui replonge, bien qu'il est à court de courant, pour commencer à détruire à découper les débris qui sont tombés sur la capsule d'Omega. Et elle finit par remonter avec un petit coup de pouce quand même du sieur Crosshair, qui utilise son gros fusil, un gros grappin, pour tirer sur la capsule, non pas pour dégommer la gamine, ce qui, moi, m'aurait plu, mais pour agripper la capsule et remonter. La Bad Batch fait ce... Oui, bah, hey, oh,
vous avez tous l'image, hein, parce que
là... c'est pouf. La Bad Batch est au grand complet, ils sont saufs, ce que tout le monde est triste parce que Typo Cassidy est détruite.
Et pas que.
Et pas que. Ils savent plus trop quoi faire. Et eh bien, le mariage, enfin plutôt le divorce, est consommé entre Crosshair et le reste de la Bad Batch, qui est abandonné comme une grosse chaussette sur la plateforme. Pendant ce temps-là, Nalassé est amené dans une installation médicale impériale secrète.
Alors, il faut quand même préciser où elle est. Parce qu'on a eu
sur la planète Welland.
Voilà. Et comment s'appelle la montagne où est installée cette base?
Je sais plus.
C'est le Mont Tantis. Non, c'est le Mont Tantis.
Le Mont Tantis. Clin d'œil.
Voilà, qui parlera aux fans de l'univers légende.
C'est ça. Et ce qui parlera peut-être à d'autres fans, c'est que l'uniforme du monsieur dont on voit le...
C'est une dame.
Ah oui, pardon, est exactement le même que le scientifique impérial spécialisé du clonage dans The Mandalorian. Eh bien, voilà. C'était la fin de la saison 1 de The Bad Batch.
Voilà, ben merci Sylvain encore une fois pour ces résumés haut en couleur.
J'espère que ça vous a plu. Thomas, je ne suis pas sûr, vu sa gueule.
Si. Après, moi, j'ai bien aimé, mais c'est marrant quand même.
C'était fabuleux.
Les épisodes ou les résumés?
Le résumé.
Alors, est-ce que finalement, les résumés ne sont pas meilleurs que les épisodes?
Si. Bien sûr.
Voilà. Alors, on y va. Qui veut commencer? Aude, peut-être? Toi qui étais un peu tristoun sur les émissions précédentes avec des dents de scie plutôt vers le bas, même à la fin ça descendait, ton intérêt était quand même moindre et assez faible.
Alors l'épisode 14, contrairement à pas mal de monde qui ont bien kiffé de retrouver Grégor et puis d'autres subtilités sur je ne sais plus quoi là, sur certains clones. Je m'y connais pas assez pour avoir bien pris la mesure du truc. Moi, l'épisode 14 m'a pas tant plu que ça. J'ai bien aimé la course-poursuite au début du clone avec les deux clébards. Là, j'avais l'impression d'être un petit peu dans Game of Thrones, dans un épisode où le taré, il avait lâché les chiens sur des...
Dans le film Predator.
Voilà, donc j'ai bien aimé cette ambiance. Et puis après, non, ça m'a un peu perdu. Par contre, le 15 et le 16, oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la chute, voilà, la perdition, l'ambiance dramatique, même si elle ne...
Tu vois, dès qu'il y a des morts, hein, mort, destruction, chaos, t'aimes ça.
Ouais.
C'est pas ça ?
Bah si. Alors, en fait, c'est pas... Il y a quelqu'un qui disait sur, je sais plus quel fil de discussion, qu'on n'avait jamais peur pour la Bad Batch, parce qu'à chaque fois, il s'en tirait avec une entourloupe. Mais bien qu'on sente en effet qu'ils vont pas forcément sacrifier des membres, bien que Asie, j'ai cru vraiment qu'il allait y passer, ça aurait été pas mal dans l'ambiance dramatique. Bien qu'on s'inquiète pas assez pour eux, cette ambiance de chaos, elle est quand même belle, bien réalisée, elle a tous les éléments pour l'émotion d'une scène de chaos, j'ai trouvé. Ça m'a bien plu. Et visuellement, et dans ce qui se trame derrière dans l'Empire. Après, bon, pour la Bad Batch, voilà, on n'a jamais vraiment peur pour eux, quoi. C'est des péripéties qui surmontent petit à petit, mais c'était bien. Le 14 et le 15, le 15 et le 16 vraiment m'ont plu et m'ont bien tenu en haleine, mais le 14, non.
Et tu n'étais pas intéressé par la transition. Alors, au-delà du fait que les Républiques Commando ne te parlent pas et le fait de les voir ne t'a pas parlé, mais est-ce que le passage sur la transition entre les clones et la...
Oui, de voir que dans un Stormtrooper, oui, c'était un conscrit et pas un clone, ouais, vite fait, c'est tellement anecdotique à ce moment-là, en même temps.
Ouais, mais ça nous apprend quand même un truc intéressant, c'est que... Dire les installations, ok, elles sont secrètes, mais ces soldats-là, ça fait déjà quand même un moment qu'ils sont entraînés.
Ouais,
secrète, tu passes au-dessus. Moi, je veux bien si t'es au ras du sol, mais si tu passes au-dessus de la planète, bon, la base secrète, ouais, elle est quand même à l'intérieur de la montagne qui est à ciel ouvert. Faut pas déconner.
Sur une planète sous contrôle impérial, je suis pas sûr que tu aies l'autorisation de toute façon de survoler cet endroit-là.
C'est
dans Star Wars, n'importe quel héros arrive à aller sur n'importe quelle planète sans être gaulé. Donc bon, au bout d'un moment...
Ouais, ça dépend. Sauf quand ça les arrange.
C'est ça.
C'est ça. Donc voilà, je vais rebondir sur des trucs que vous allez dire, mais j'ai rien d'incroyable à ajouter sur les trois épisodes.
D'accord. Thomas, peut-être.
Ouais. Alors... Du coup, bizarrement, quand je vous ai tous vus sur le Messenger, j'ai vu des gens qui d'habitude détestent Bad Batch, comme Seb, par exemple, Galanou, qui dit ouais, le 15, génial et tout. Alors je me suis dit, si lui, il a vraiment aimé, j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit attention, vous allez voir, parce qu'on les regarde par trois, en fait. J'aurais dit, vous allez voir, le 14 va être sympa, mais le 15, ça va tout déchirer. Et j'ai tellement placé la barre haut qu'à la fin, ils m'ont dit... Ouais, ok, c'était sympa, mais tu nous l'as tellement survendu, le truc, du coup, bah, ils étaient déçus, en fait. Et c'est toujours un peu le problème qu'on a, c'est quel niveau d'attente on a. Et là, je crois que j'ai dû placer la barre un peu trop haut pour tout le monde, et donc voilà, on le regarde en famille, bah, ils étaient déçus, en fait. Ils m'ont dit, ouais, c'était bien, mais je pensais qu'il allait avoir un truc en plus. Donc voilà, ça, c'est pour le niveau d'attente générale. Et moi, ça m'a fait un peu ça. C'est vraiment extra. Alors, visuellement, à chaque fois que vous faites un Star Wars en direct, vous en parlez. Et là, je me suis dit, mais waouh, ça va encore plus loin. C'était encore plus beau. Les gosses avaient l'impression, ils croyaient qu'on était sur Endor dans le 14. Et ça, c'est vrai que ça faisait beaucoup penser à Endor.
La forêt, ouais. Bon, c'est vrai que
c'est très, très terrestre comme environnement. Ouais. Hein.
Et voilà, ça ressemblait vachement. Et le tout dernier décor, quand ils arrivent sur le Wayland, tout le monde a cru qu'on était, vous savez, sur la plateforme de Rogue One avec le père de Jyn Erso.
C'est pas du tout le même environnement, hein.
Ouais, mais si tu veux, le fait de voir un scientifique arriver, le fait de la plateforme, eux, c'est la référence qu'ils avaient, parce qu'ils ont, ils ont pas lu, l'héritier de l'Empire. Je suis vraiment en vacances, ça se voit. Ils ont pas lu l'héritier de l'Empire, donc du coup, pour eux, c'était ça. Et donc il y a pas mal de trucs qu'ils ont capté et ils ont tout de suite dit ouais, mais alors du coup le scientifique qui récupère le Kaminoan, ils ont gardé que la scientifique, ah mais c'est peut-être celui dont on parle pour le bébé Yoda, etc. Donc hop, ça y est, les pièces commencent à s'installer, c'est intéressant. Et à ta question de tout à l'heure, j'avais envie d'y répondre quand tu l'as posée, à savoir est-ce que c'est pertinent de voir le changement des soldats. Moi, c'était une des grosses questions quand je regardais la prélogie, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a des clones et le moment où on a des soldats je veux pas être raciste envers les clones, donc je veux dire des soldats non clonés, on va dire, d'accord, je veux pas dire soldats normaux, parce que j'adore le Capitaine Rex. D'ailleurs, pour info, pendant mes vacances, j'ai été à Paris avec un pote. Il m'a ramené un de ses meilleurs potes qui s'appelait Rex. Le mec, on a fait un resto ensemble. Alors il me disait qu'il a super mal vécu son prénom. Je lui disais, t'as trop de la chance de t'appeler Rex. Et il me dit, oui, mais quand j'étais gamin, tous mes potes se foutaient de ma gueule avec le chien Rex. Il me disait, je l'ai mal vécu petit et maintenant je trouve que c'est cool. Je lui dis, putain, mais Captain Rex, quoi. Et du coup, le gars, je l'ai appelé Captain Rex tout le long, quoi. Mais c'était plutôt amélioratif que péjoratif. Et j'ai trouvé ça marrant, quoi. Voilà. En plus, on venait de voir les derniers Bad Batch. J'étais à fond sur le Captain Rex et il me dit, ah, je te présente mon pote, il s'appelle Rex. Non, quoi. J'ai vraiment cru que c'était une blague, quoi. Voilà. Pour la petite info. Et, ce qui est surtout intéressant aussi, moi, peut-être qu'on en reparlera après, j'ai beaucoup aimé les questionnements qu'on a sur Crosshair. On va le revoir. Et, les questions des gosses à la fin, c'est est-ce que Crosshair est vraiment méchant? Est-ce qu'il a des problèmes d'ego? Est-ce que dans le fond, son raisonnement, il y croit vraiment ou qu'il essaye de se le mettre? Alors, on a quand même mis un quart d'heure là-dessus, hein, sans avoir la réponse, bien évidemment, hein, puisqu'on ne s'appelle pas Filoni. Mais on ne sait pas où ils vont, les gars. Mais on sent que Crosshair, voilà, dans sa tête, ça a l'air compliqué quand même. Hein. C'est-à-dire que le problème d'ego avec la gosse, effectivement, ça l'insupporte de se faire commander par une gosse de 8 ans. En même temps, il va sauver la vie. Et à un moment, il lui sauve la vie, il dit, c'est bon, là, maintenant, je te dois plus rien. Donc, lui, il a quand même des problèmes d'ego.
C'est bon, on est quitte.
Voilà, c'est ça. Mais son idéologie, où elle est vraiment? C'est-à-dire que, il est pas stupide, quand même. Il a compris que les mecs leur avaient bombardé la gueule et qu'ils voulaient le tuer. Mais il se dit, non, moi, je suis le soldat de l'Empire. Il lui dit, mais attends, tu vois, quand même, là, regarde, il savait que t'étais là. T'as vu les plateformes, il en reste combien, là? Enfin, je veux dire, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Et, tu sens que le gars, alors moi, mon point de vue était le suivant, j'aimerais bien avoir le vôtre, puis on reprendra d'autres points, parce que sinon, je vais partir en monologue et ça va être chiant. Comment vous le sentez? Moi, mon point de vue sur Crosshair, c'est que le gars, il avait l'impression d'être Dieu le Père, il a eu un peu le syndrome de Dieu. Il a compris qu'en fait, c'était qu'une grosse merde de clone, aux yeux de l'Empire, j'entends bien. Et donc, du coup, il se dit, merde, j'ai merdé. Il voit que ses potes, en fait, ils ont fait leur vie sans lui. Bon, il le dit à un moment, le seul truc qui l'a vexé, c'est « Moi, votre loyauté vis-à-vis de moi, vous m'avez abandonné. » Il fait un peu son caliméro. Mais on sent qu'en fait, il aime bien ses potes et qu'il se rend compte qu'il a merdé dans son choix, qu'il reviendra bien dessus.
C'est pas ses potes, c'est ses frères.
Oui, plus que ses potes, ouais.
Voilà, c'est ça le truc.
Et qu'en fait, par ego, il veut pas dire « Non, ok les gars, j'ai complètement foiré.
Je reviens,
quoi. » Ouais.
Bah, moi, je suis de ton avis là-dessus. C'est vrai que moi, sur ces trois épisodes-là, c'est vrai que le 14 m'a bien plu, bah, parce que vous connaissez de toute façon mon amour pour les clones et pour les commandos. Le seul truc qui m'a emmerdé, c'est qu'ils mettent Scorch dans le camp des méchants. Tant qu'à mettre un membre de la Delta dans les méchants, il fallait mettre Sev. Les TK Troopers, bon, c'est encore un concept. Bon, je comprends l'idée, c'est encore un concept réutilisé. Ça me gêne pas plus que ça. Ça fait une étape supplémentaire avant les troupes. Mais comme Thomas, c'est vraiment une question que je me pose à chaque fois. Comment on est passé des clones troopers à une armée de conscrits? Et c'est vrai que c'est un truc que j'aimais bien et que je pensais qu'on verrait beaucoup plus précisément dans Bad Batch, la transition, les façons de faire ou même les magouilles, parce que c'est vrai que là, d'une œuvre à l'autre, tu vois, on nous dit par exemple que il y aura plus de clones, mais ça fait maintenant depuis plusieurs versions des DVD, des Blu-ray, des rééditions des films que Temuera Morrison double les Stormtroopers. Ou à redoubler les Stormtroopers.
Non, non, Sylvain. Non, non.
Si, si.
Non, non. Temuera Morrison ne redouble pas les Stormtroopers. Il n'a redoublé que Boba Fett dans la trilogie originale.
Oui. T'es sûr de ça?
Ah oui, certain, à 200%. Non, non. Les Stormtroopers de la trilogie originale sont et restent des conscrits à part entière.
Non, j'avais lu qu'il avait redoublé plusieurs des voix.
Non, non.
Et où c'est qu'ils les ont foutus, les anciens clones tout pourris?
Ouais.
Pour les tout neufs qu'ils n'ont pas utilisés.
Ça, par là... contre, ouais, voilà, je m'interroge.
Saison 2, je pense.
Pour revenir sur ta question, Thomas, concernant Crosshair...
j'ai raison.
Pas du tout d'accord avec toi. En tout cas, je ne l'ai pas compris comme ça. Pour moi, en fait, Crosshair, c'est l'anti-Calus de Rebels. C'est-à-dire que Calus, il a eu une... on l'a élevé impérial, on lui a donné à manger impérial, il a vécu impérial toute sa vie. Pour lui, c'était sa raison d'être, sa raison de vivre. Il a été confronté plusieurs fois à l'abandon de l'Empire, et c'est cet abandon et les discussions avec d'autres personnages qui ont fait changer son point de vue et qui l'ont fait basculer du côté des rebelles en se disant bah, « Effectivement, je suis pas du bon côté. » Et souviens-toi, on avait parlé de cet épisode merveilleux où il se retrouve avec Zeb coincé sur une lune, et où à la fin, Zeb retrouve tous ses amis et tout, et il est super entouré. Et Calus, lui, se retrouve face à la froideur du vide de sa couchette. Et en fait, pour moi, Crosshair, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il ne changera pas. Il ne changera pas. Et pour moi, il n'a pas changé. En fait, il essaye de recruter quand il tue ses soldats. C'est uniquement dans le but de recréer la Bad Batch du côté impérial. Il veut récupérer ses frères.
Il veut l'aider.
Voilà, ça, il est vraiment, par rapport à ses frères, il y a vraiment une envie de les retrouver. Il a vraiment, c'est vraiment, comme tu disais, le vilain petit canard, le dernier de la famille qu'on a laissé de côté, et puis voilà, pour se concentrer sur les autres. Mais il veut les réintégrer pour l'Empire. Et le fait que l'Empire lui ait tiré dessus, etc., malgré tout, nanani, nanana, pour lui, ça change rien. Il est, on l'a dit, un bon soldat obéi aux ordres. Et effectivement... Moi, j'étais de ceux qui pensaient que le fait, je l'avais même mis d'ailleurs, je crois, dans notre fil Discord aussi, que le fait de voir que l'Empire l'avait abandonné et lui avait tiré dessus même, en même temps que les autres membres de l'équipe, à la fin de l'épisode 15, amènerait sa prise de conscience dans l'épisode 16. Et pour moi, c'est une vraie surprise, la scène finale, parce qu'il se donne un coup de main. Pour survivre tous ensemble contre les Dark Troopers et ensuite pour échapper de Kamino. Enfin, ça me semble pas illogique non plus. On peut laisser les griefs de côté quand on a un but commun. Par contre, je m'attendais vraiment à ce qu'il change d'avis au fur et à mesure des différentes péripéties. Et je suis content parce que justement, c'est pas le cas. Et ça m'a un peu pris à revers parce que je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à une agent Calus, quoi. Donc, voilà, je trouve que... Pour moi, il va rester du côté de l'Empire.
Parce qu'il a l'idéologie pour toi.
Il a peut-être l'idéologie, mais... on le quitte, il a quand même un gros coup sur le moral. Il n'a pas réussi à récupérer ses frangins. L'Empire en a rien à carrer et il se retrouve tout seul. Moi, je pense plutôt qu'il va devenir chasseur de primes, mais qu'il va être un assassin indépendant, qui va devenir indépendant, qui va avoir une haine à la fois de ses frères, de l'Empire, des rebelles, du monde entier. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Parce que il termine là, ses frères l'abandonnent une deuxième fois.
Ça va faire un rageux, en fait.
Il a plein de questionnements. Par rapport à ses frères, par rapport à ses frangins, durant tout l'épisode 7, l'épisode 16. Et à la fin, il est confronté à cette gamine qui a un peu pris la tête à tout le monde et un peu le lead sur la Bad Batch. Et ses frangins la préfèrent. Et ses frangins, il n'y en a pas un qui lui tend les bras.
Ah non, plusieurs fois.
Ils font ça tout le long. Hein.
Bah oui, et Hunter, à chaque confrontation, Hunter essaye de raisonner Crosshair en lui disant tu es comme nous, tu fais partie. Et à la fin, la confrontation où il dit, où il y a l'histoire de la puce, justement, en lui disant c'est pas de ta faute, c'est la puce. et l'autre tu balances, bah non, moi la puce on me l'a retirée depuis longtemps, donc c'est parce que je suis comme ça. Comment tu, on peut plus douter de son idéologie et de et du chemin qui continue à prendre. Et il le dit sur la plateforme, il dit bah, moi l'Empire va me récupérer. Donc à moins que l'Empire ne vienne pas le rechercher et dans ce cas-là que ça lui fasse un changement de point de vue dans la saison 2, mais dans ce cas-là on retrouvera un Crosshair, enfin il nous racontera le morceau qu'on n'aura pas vu, mais pour moi il se fait récupérer par l'Empire et c'est reparti pour un tour, hein.
Ouais. Et alors est-ce que vous n'avez pas senti qu'à un moment sur la passerelle, quand les autres se barrent, je trouve que la scène dure assez longtemps, comme si il l'avait un petit peu étiré, la scène, comme s'il l'avait étiré pour nous montrer que voilà, que la décision, qu'il y a plusieurs moments où on se dit allez, il va retourner les chercher, et où il n'y va pas,
vraie,
en fait.
Non, il y a une vraie cassure.
Oui, il y a une vraie cassure. Ça, c'est
y a une vraie cassure entre eux, et c'est la deuxième fois qu'il va. Moi, je veux bien que tu dises qu'il plusieurs fois ils lui ont tendu la main, mais quand lui il sauve Omega, ils sont tous en train de le braquer. Hein.
Bah c'est attends, enfin tu t'aurais réagi différemment.
Dire, t'as pas le temps de réagir. Non, en réalité, t'as pas le temps de réagir.
Bah, pendant toute la série, pendant toute la saison, Crosshair, alors, ok, c'est pas tous les épisodes, mais on l'a vu plusieurs fois, Crosshair essaye de les débusquer, de les attraper, de leur tirer dessus, etc. Dire, au moment où le mec saisit son fusil, bah, le réflexe des clones, pour moi, il est tout à fait logique.
Bah ouais, mais... D'un point de vue soldat peut-être, mais d'un point de vue on était frangin et ça fait 20 heures qu'on essaye de te
bah oui,
changer
mais...
d'avis et de te montrer, bah voilà, la cassure.
Il y a une vraie cassure, mais elle était déjà là avant.
La cassure, oui, mais c'est une continue. Pour moi, Crosshair, c'est quelqu'un, il termine la saison 1 brisé. L'Empire l'a abandonné, d'accord. Ses frères l'ont abandonné deux fois. Moi, je vois pas du tout l'Empire le retrouver. Pour moi, l'Empire, ils se sont barrés. Rempart, tu penses réellement que Rempart, il va envoyer une navette récupérer un clone? Il en a rien à foutre.
En tout cas, si jamais ils le font, c'est clair qu'il redevient à 100% du côté de l'Empire.
Voilà, c'est ça.
S'ils le font effectivement,
c'est bon. Voilà, c'est voilà. Ça, en fait. Et cet élément-là, on l'aura que l'année... Chose.
C'est surtout, à mon avis, si l'Empire vient le chercher, pour moi, si Rempart... ou quoi, Rampant, ou enfin Blaireau, capitaine Rampant, Blaireau, là, hein. Va le chercher, c'est parce que Crosshair va devenir autre chose qu'un simple trooper.
Oui,
un simple trooper.
Justement, la question...
Un assassin privilégié, alors que moi, là, je les vois pas, franchement, je les vois pas le récupérer. Et ce qui fait pour moi que là, Crosshair, il est brisé.
Et je sais pas ce que vous en pensez, mais toujours sur Crosshair, au début j'étais un peu déçu qu'il rejoigne pas la Bad Batch, j'aurais bien aimé qu'il y aille. Et moi, les autres me disaient non, faut pas qu'il vienne, c'est un gros con, faut qu'il se casse et tout. Il y a juste ma fille qui disait oui, mais c'est leur frère quand même, il est gentil. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais si jamais, j'ai essayé de réfléchir, si jamais Crosshair avait rejoint la Bad Batch, tout le monde aurait dit ouais, bah c'est Disney, c'est trop facile. Bah, oui. Et finalement, c'est bien qu'ils aient fait ce choix. Même si j'étais déçu, ça fait partie du truc, tu sais, comme à la fin de l'Empire contre-attaque, ma merde, pauvre Han Solo, bah, c'est bien dans un sens que voilà, ça nous prenne un peu à revers et que ce soit pas trop, entre guillemets, Disney.
Et toi, Aude, qu'est-ce que tu as pensé qu'est-ce que tu imagines du destin de Crosshair?
Alors, je vais rien imaginer dans la suite, mais... À l'écoute de tout ce que vous venez de dire et de ce que je pensais déjà de lui, je vais vous donner mon analyse psychologique de Crosshair. En plus, on a revu l'épisode 1 hier avec mon fils. Des clones, il y en a des millions. Ils ont tous le même matériel génétique, mais on peut bien observer que, en dépit d'une obéissance aux ordres et de capacités militaires... physiques et psychologiques de bons soldats, il y a des caractères différents. Puisque eux-mêmes ont besoin de se définir par des prénoms, des coupes de cheveux, des couleurs, des appartenances à des régiments, des commandos. Donc ils sont tous différents. Crosshair, dès le début, il est quand même présenté comme quelqu'un de talentueux et méthodique, mais dans son domaine d'action professionnel, on va dire. Le mec, il s'est tiré. Voilà, il s'est tiré de loin. Mmh. Il peut t'enlever les ailes d'une mouche à 3 km. Bon, ok. Par contre, il est jamais représenté, jamais mis en lumière avec ni une parole qui sort du cadre militaire professionnel, ni un mot agréable pour qui que ce soit, que ce soit en cas de victoire, en cas de défaite. C'est pas le mec qui exulte, c'est pas le mec qui rage non plus quand ça se passe mal. Il a vraiment une tête de con dès les premières secondes de l'épisode 1. Il a une tête de connard, de skinhead en plus, si j'ose dire. Il a un tatouage sur l'œil, il y a d'autres tatouages chez les clones, mais lui, franchement, il a une tête de nazi. Ce qui me fait dire ça, j'avais pas pensé qu'on allait en parler, mais ce qui me fait dire ça, c'est la mission que Tarkin leur confie sur Onderon, là, en leur disant, la Bad Batch, il y a une cellule rebelle, il faut aller les désinguer, ok, on y va. Eux, ils croient, pas une cellule rebelle, pardon, une cellule séparatiste, eux, ils croient aller tuer du droïde. Bon, ils arrivent là-bas, ils voient quoi? Des vieux, des gosses, des pilotes, des civils, quoi. Ils voient pas encore Sobirira. Et là, ils sont sur le tronc, dans l'obscurité, et il y a Hunter qui dit, attends, il y a un truc qui va pas, c'est des civils, là, on peut pas faire ce qu'on nous a dit. Et Crosshair, il est là, il trépigne, il dit, mais vas-y, putain, donne l'ordre, vas-y. Sous-entendu, j'ai envie de les buter, quoi, je suis là pour ça, moi, je veux du sang, je veux des larmes, il faut que je les bute, quoi, tu vois. Et il est là, il trépigne, et deux, trois fois, Hunter dit, non, on fait pas ça, sans s'énerver, tu vois, contrairement à moi sur mon fils qui dirait, mais arrête de me casser les pieds maintenant, t'arrêtes d'insister, on le fait pas. Non, et sans s'énerver, il lui dit, non, on fait pas ça. Et l'autre, il insiste. Et il insiste encore une fois quand il est devant les civils. Il a pourtant devant les yeux des gosses, des vieux, des gens dans des combinaisons, enfin des réfugiés, quoi. Après, il y a Saw Gerrera, ça c'est autre chose, d'accord. Mais même lui, là, pour une fois, Saw Gerrera, il est hyper calme. Il a pris un Xanax parce qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Donc il est quand même face à des gens désarmés, avec une escouade de 5 mecs boostés aux hormones. Et il est encore là en train de vouloir les buter. Et je me suis dit, c'est pas qu'une question de puce. Le mec, il veut du sang. C'est un psychopathe. C'est comme ça qu'il
dit. Ouais, c'est ça.
Il est bon dans ce qu'il fait. Les autres l'acceptent en tant que psychopathe parce qu'il est bon dans ce qu'il fait et que c'est quand même leur frère. On a tous des gens dans notre famille dont on sait que ce sont des tarés. Mmh. On n'a pas forcément envie de les tuer ou de les mettre en prison, sauf le moment où ils assassinent la petite voisine. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Et on peut pas les renier tant qu'ils n'ont pas fait un truc trop répréhensible. Là, Crosshair, il a fait un truc trop répréhensible. Ses frères, ils ont les boules, ils se disent, bon, bah, on peut plus le fréquenter, là, c'est mauvais. Et tout du long, comme disait Sylvain, il prouve qu'il y a plein de moments où il a voulu les désinguer. Coup du sort, il n'a pas réussi. Je pense qu'à chaque fois qu'il est dans cet échec, il rumine aussi sa situation, sa séparation d'eux. Et puis sa rage de ne pas y arriver, sa rage de ne pas être comme les autres, sa soif de sang. Il doit se dire, mais pourquoi moi? Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, on m'a dit de tous les buter, je les bute tous, quoi. Finalement, ce n'est pas Breaker, le gros balourd. Hein.
Est-ce qu'il n'aurait pas envie d'être le chef à la place de Hunter aussi, des fois?
Est-ce qu'il n'aurait pas un petit plus petit zizi que les autres et un complexe d'infériorité? Je pose ça.
Ah, mais ça, c'est, oui, ça, c'est une évidence. Ça se ressent dès le premier épisode.
C'est celui qui te plaît, le personnage.
Clairement.
Ouais, non, j'adore. Ah, il aurait peut-être envie d'être chef, ouais. Ouais, peut-être. Après, ça serait pas un chef. Enfin, il sait ce que c'est que le management. Il voit les différents niveaux qu'il y avait dans la République. Il sait même pas manager l'équipe. La deuxième mission que Tarkin le renvoie faire sur Onderon, il arrive même à se mettre les mecs à dos, quoi. Donc, manager quoi que ce soit. Non, lui, voilà, assassin pour son propre compte. Il va buter tout le monde et ça lui fera plaisir.
C'est pour ça que je te dis, moi, je le vois pas récupéré par l'Empire. Je le vois devenir un assassin, tout simplement.
Ouais, à la limite.
Parce qu'il a la deuxième cassure avec ses frangins, plus la cassure avec l'Empire. Ouais, je le retrouve, il va nous faire des tirs à trois bandes sur Coruscant.
Alors, c'est intéressant, ouais, cette analyse aussi, Aude. Et ça me fait dire, là, je vais te rejoindre un peu, Sylvain, quand tu dis, ouais, ça va devenir un freelance. Est-ce qu'au final, sa volonté, outre de désinguer ses frères, puisque, comme on l'a dit deux fois, l'abandon, donc je pense que ça, il ne peut plus l'accepter. Mais en plus, l'abandon par l'Empire, est-ce que son objectif, ce ne serait pas de désinguer aussi l'amiral Rempart, puisque bah, c'est un personnage. Alors, évidemment, on sait comment ça se passe, on nous a introduit un nouveau personnage, on peut peut-être le retrouver plus tard. Mais pour l'instant, c'est un personnage dont on n'a jamais réentendu parler au moment de la trilogie originale et même jusqu'à la postlogie. Donc, on peut aussi imaginer que ce personnage ne survivra pas jusqu'à la fin de la guerre. Et est-ce que Crosshair pourrait être, bah, effectivement, en vendetta personnelle dans cette saison 2? Mais quel serait l'intérêt pour la série Bad Batch, dans ce cas-là, de recroiser Crosshair, puisque bah, nous, on se concentre... C'est les quatre autres qui nous intéressent, c'est pas... Bah,
après, si c'est... et j'aime bien, moi, la théorie d'autre du psychopathe, j'y avais pas pensé. Mais effectivement, un psychopathe ne peut pas être un bon manager. Il peut pas, même pas en avoir envie. Mais par contre, ça peut faire un danger, tu sais, un peu à la Hitchcock, le mec qui traîne, tu l'aperçois, tu sais, il fait monter la pression quand il est là, et ça pourrait être un conflit à tripartie, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, les Bad Batch qui vont certainement aller avec les rebelles, peut-être. A priori, c'est comme ça qu'on le sent. L'Empire et Psychopath Man qui traîne aussi un peu partout, qui lui en veut à tout le monde, quoi, en fait. Et qui pourrait aussi taper sur l'Empire.
Alors, je pense qu'il n'est. Je suis pas sûr que Disney ou Lucasfilm pousserait le coup du psychopathe ou du sociopathe. Par contre. Ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait être marrant, dans le cas où réellement où Crosshair aurait vrillé et ne serait toujours pas récupéré par l'Empire, c'est que Crosshair intègre des groupes rebelles extrémistes comme ceux de Saw Gerrera, qui on l'a vu dans les BD, on l'a vu dans, qui flingue un tour de bras. Et je vois, vu ce qu'on sait de Gerrera, je trouve qu'il aurait, à mon avis, aucun problème de conscience pour recruter un gars comme Crosshair, et une confrontation peut-être à distance entre la Bad Batch et Crosshair et l'Empire, donc ce conflit tripartite sur fond de d'alliance rebelle, parce que justement la Bad Batch qui intégrera les rebelles classiques et Crosshair qui intégrera des rebelles extrémistes. Parce que le coup du tueur psychopathe, honnêtement, bon, chez Disney, déjà Cruella d'enfer, ils ont fait un film. Déjà, elle touche pas au clébard, donc bon, un tueur à longue distance qui flingue tout le monde dans une série pour gamins, adolescents. Je suis pas sûr que ce soit à l'ordre du jour dans la maison. Hein.
C'est bien ce qu'il essayait de faire dans la saison 1. Il essayait de flinguer les Bad Batch quand même, hein, mine de rien.
Oui, mais bon, de là devenir un tueur de sang-froid dans un show pour enfants.
C'est ça.
Sylvain a raison.
Est-ce que tu vois vraiment un moment, je sais, ne serait-ce qu'une scène où tu vois un sniper flinguer des gamins de loin?
Non, mais il en voudra peut-être pas aux gamins, mais il en voudra peut-être juste à la Bad Batch et à l'Empire.
Oh bon, tu sais, si les gamins ils ressemblent tous à Omega, à mon avis, ils tirent.
Hein. Et ben voilà pour les futures fêtes foraines, je propose qu'on mette des cibles Omega dans les jeux de tir.
En tout cas, t'as vu Sylvain comment il... Pardon, excuse-moi.
Vas-y.
Sylvain, comment il t'a piqué tes répliques, quoi.
Voilà.
À chaque fois. On va quand même pas se laisser dicter ce qu'on fait par une gamine. Bah si.
Surtout qu'elle est plus... Mais tu vois, là-dessus, j'ai bien aimé le coup du... Mais si, en plus, elle est plus âgée que nous. J'adore la gueule qu'a Crosshair à ce moment-là. C'est ce que je disais. C'est super intéressant parce que je crois qu'on pensait tous que Omega, en gros, c'était la petite dernière. Et en gros, ce serait comme Boba.
Elle a l'âge de Boba, ouais, c'est ça.
Oui, eh ben, vous avez raté justement, c'est dit dans un des épisodes plus tôt, je sais plus lequel exactement, qu'elle était là avant eux. C'est dit.
Oui, non, mais bien sûr. C'est dit dans un autre épisode.
C'est dit dans un autre épisode.
Dans le 15. Ah ouais.
Okay. Non, c'est dit avant les trois là.
D'accord, j'avais pas fait gaffe.
Alors, par contre, les connexions entre Mandalorian et Bad Batch, c'est énorme en fait, parce que entre Omega, qui va évidemment avoir un lien avec Boba Fett, c'est évident qu'on va les retrouver. Elle a un lien avec Fennec. Le bébé Yoda, il a un lien avec la scientifique Kaminoenne. Les autres scientifiques qu'on vient de voir sur le Wayland. C'est juste ouf, quoi. Et en plus, si vous nous parlez de clones, on sait que dans la trilogie de l'héritier de l'Empire, là, on avait justement, ils avaient cloné un Jedi. Enfin, dire tout ça, c'est hyper connecté, quoi. Ça va. Enfin, je sais que certains n'aiment toujours pas le film univers, c'est le débat de QC, mais moi, enfin, je trouve ça fantastique, quoi. Vraiment, c'est hyper riche.
Alors, C'est vrai que c'est riche, mais le problème, c'est que pour moi, je trouve que c'est trop riche. C'est comme l'émission qu'on est en train de, qu'on va essayer de faire avec mon confrère de Fabien et, excuse-moi, j'ai oublié, avec le troisième larron. C'est que tout le monde est connecté avec tout le monde, en fait. C'est ça qui me pose problème. C'est que tous les clones se connaissent entre eux, ils connaissent aussi Hera, ils connaissent machin.
C'est la force, Sylvain, c'est la force.
Oui, mais c'est un peu le ta gueule, c'est magique. Moi, il y a des films ou des séries où je veux bien, mais trop, c'est trop. Et là, ça me. Pourtant, j'ai aimé via, surtout l'ambiance de ces deux épisodes-là. J'ai même aimé l'épisode d'avant. Mais la dernière séquence avec la nana, avec la vie, ouais, c'est bon, quoi. Il connecte tout avec tout, en fait. C'est ça que je trouve chiant.
Sylvain, d'accord, c'est connecté, mais c'est connecté pas là. Pour le coup, c'est pas connecté avec des personnages. C'est connecté sur le fil de l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme pour les clones. On savait qu'il y avait des clones, et après, on sait qu'il y avait des Stormtroopers. On sait pas ce qui se passe entre les deux. On peut très bien se dire qu'on n'en a pas besoin pour la compréhension globale de l'histoire. Et avec ça, je serais tout à fait d'accord. Par contre, pour les gens qui sont fans de Star Wars, le fait d'avoir cette information qui permet de faire le pont, c'est quand même très, très intéressant. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que on connaît très bien, enfin, on a très bien compris l'histoire du clonage et tout de Mandalorian, où ça menait. En tout cas, probablement, c'est des pistes vers Snoke, vers le retour de Palpatine, etc.
Ah bah oui, il y a lui aussi, oui, c'est vrai.
Voilà. Donc voilà, on a ça. Maintenant, le fait de ramener un lien avec cette partie du scénario dans l'histoire de la saga, c'est pas forcément se faire croiser les personnages. Ce qui aurait été embêtant, c'est qu'on croise le docteur Pershing, qui de toute façon n'aurait pas eu l'âge d'être là à ce moment-là, mais là, ça aurait été problématique. Et je suis d'accord avec toi. Mais le fait d'avoir un corps... un corps scientifique qu'on a déjà vu, mais qui est là, bah moi ça me pose pas de problème. C'est comme si tu me dis.
Le problème, c'est que ce corps scientifique, c'est forcément une création de Palpatine. Donc le Palpatine, il avait déjà un plan sur 20 ans pour faire tomber les Jedi. Bah, donc là, il a un plan sur 50 ans pour se trouver des clones. En fait, tout le monde a des plans. Sur 12 générations.
Mais oui, mais ça a toujours été...
Dark Ben, il avait fait ça dès le départ. Il avait dit, vous choisissez des mecs, des bons, des malins, qui vont prévoir sur le long terme. Et ben lui, il nous a tenu 9 films.
Mais Sylvain, c'est ce que nous présente l'univers étendu depuis le début, et déjà depuis l'univers légende, mais encore plus avec le canon, le plan de contingence, l'opération Cendre, les observatoires de la bordure extérieure, Exegol, et tu n'as pas lu le volume 2 de la série Star Wars, mais Palpatoche, il avait déjà largement préparé ce qui se passe dans le 9 au moment de la trilogie originale.
Donc pourquoi il meurt ?
Il meurt parce qu'il pensait pas que son... apprenti l'a pris
partie. Tu es en train de me dire que le mec, il a 800 plans sur 600...
Mais oui, il a même prévu le... Il avait prévu le plan au cas où il meurt. Il a tout prévu.
Il a même prévu Vador. Il a prévu machin, ceci.
Non, il l'a pas prévu, mais il avait un plan B au cas où.
Il a un plan C, un plan D, un plan V.
Bah ouais.
Mais, à un moment.
Mais je sais pas où est-ce que ça te choque. Parce que regarde, parce que je
trop,
suis pas.
Parce
je,
que trop, c'est trop.
Je c'est, suis pas le Palpatine.
C'est comme avec Batman. Moi, le coup du. Dire Batman, c'est le plus grand détective du monde, c'est le meilleur karatéka du monde, il a des plans pour niquer tous les super-héros de la Terre. C'est pas possible, ça ne marche pas. Arrêtez, c'est une excuse bidon pour faire des scénarios à la mort, ultra simpliste et à la mort moineux. Là, on nous a intégré un corps scientifique qui est là depuis 40 ans, qui sera là 800 ans après. C'est au bout d'un moment, renouvelez-vous.
Je sais pas. Regarde, je suis Palpatine. Je suis l'héritier de 1000 ans de Seigneur Sith. J'ai mis en place un plan sur au moins 20 ans entre Anakin, entre la naissance d'Anakin et sa prise de contrôle. J'ai fait un plan de 20 ans. 20 ans à manœuvrer d'un côté et manœuvrer de l'autre, à berner les gens, à faire des intrigues de couloir. Tu prends, je suis Palpatine, je prends la tête de la galaxie. Ben maintenant, c'est fini les Sith, j'ai pas l'intention de la lâcher. Tu vois ce que je veux dire ? Si je suis Palpatine et que je suis que j'essaye de m'enfondre un peu dans sa psyché, maintenant que j'ai pris le pouvoir et que j'ai annihilé les Jedi, il n'est plus question jamais qu'il y ait un autre seigneur Sith après moi. Donc, le seul moyen et le seul moyen de pouvoir se maintenir éternellement...
Il transgresse un peu la règle des deux, du coup.
Finalement. Oui, mais en fait, il met fin à la règle des deux. Presque, ça se trouve, c'est lui l'élu qui ramène l'équilibre. Il n'y a pas de raison qu'après lui, il y a un autre seigneur Sith. Il a besoin d'apprentis, et il nous l'a montré dans l'épisode 1, il nous l'a montré dans l'épisode 2. Il a besoin d'apprentis fonction.
Et il veut juste des cornus, en fait.
Exactement, ils ne sont là que pour le servir. En plus, il est déçu de Vador, puisque Vador n'a plus le potentiel qu'il avait.
Non, donc non, il alors, le laisse ça, de côté. Non, excuse-moi, mais ça, c'est intégré, ça a été intégré récemment dans les comics, dans les romans et tout ça. Si tu t'en tiens au film, il n'y a jamais ce coup.
Je suis d'accord.
Palpatine.
Je suis d'accord avec toi.
Et puis, jusqu'à l'épisode 9, Palpatine, il est mort. Il n'y a pas. Jusqu'au conflit entre Abrams, jusqu'au problème de création de cette nouvelle trilogie avec Abrams et
Johnson.
Et Johnson, Palpatine, il est mort. C'est Abrams qui le fait,
Sylvain.
Qui fait revenir. Donc là, les mecs sont en train de broder. En fait, tu trouves un truc génial. Les mecs sont en train de broder.
Il arrive à
rattraper le bordel.
Sylvain, le fait d'avoir fait revenir Palpatine, qui est mon personnage préféré, j'ai trouvé ça horrible. En tout cas, dans l'épisode 9. S'il l'avait ramené dans l'épisode 7, je l'aurais accepté. Le fait de le faire revenir dans l'épisode 9, je trouve ça horrible. Maintenant, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie de l'histoire de la saga Star Wars. Donc, effectivement, maintenant que cet élément a été apporté, eh ben, il faut lui trouver une justification. Parce que on a quand même pas mal gueulé sur le retour de Palpatine en disant « c'est pas normal, c'est de la merde, et comment ça se fait ? Et Snoke, pourquoi c'est lui qui le machin ?» Eh ben là, en fait, on va nous donner une justification. Mais la justification, si les mecs arrivent à nous donner une justification qui est logique au sein de la saga, eh ben je leur dis bravo, parce qu'on vous a foutu une bombe sur le point d'exploser entre les mains, une patate chaude, et vous en aurez fait quelque chose de cohérent et de correct. Bon, pour l'instant, en fait, on n'a pas tous les éléments encore, donc on ne peut pas
juger. Pour résumer ce que tu fais, Loïc, c'est qu'en fait, t'essayes, avec les déboires qu'il y a, t'essayes de redonner une continuité qui fonctionne.
Ben non, et... j'essaye de m'en tenir à ce qu'ils essayent de nous apporter par rapport à cette continuité.
Ouais. Moi, je sais que des fois, quand je vois des trucs qui chient, j'essaye, par du coup, un espèce de raisonnement, de voir en quoi ça peut finalement, dans l'absolu, se raccommoder.
Mais ce qui me poserait problème, c'est que ce qu'on nous montre là entre en contradiction avec les éléments qu'on aura eus ailleurs.
Ouais, mais là, c'est pas le cas.
Pas pour l'instant.
Donc, on peut plutôt tirer notre chapeau à l'effort qu'ils font.
Ben, moi je suis de cet avis-là, de tirer mon chapeau. C'est pas de leur faute à eux si Palpatine a été ramené. C'est pas les créateurs de la Bad Batch qui ont ramené Palpatine. Eux, ils ont fait avec. Alors, s'ils arrivent à lier tout ça, et en plus, avec un élément qui nous intéresse, nous, en tant que fans de Star Wars, qui est la transition entre les clones, les Stormtroopers, entre l'Empire et entre la République et l'Empire, s'ils arrivent à lier tout ça en faisant un tout à peu près cohérent, franchement, je serais vraiment content. Alors, si je peux enchaîner sur aussi mon avis de ces trois épisodes. Ces épisodes-là, c'était vraiment ce que j'attendais, pas vraiment ce que j'attendais depuis le début, mais on est dans l'ambiance et dans le développement des choses que moi j'attendais avec cette série. À savoir, effectivement, plus d'empire, plus de transition, un peu plus de politique. Il y en a un petit peu au moment où la prise de décision avec les contrats sont révoqués, avec le... On va dire que on peut supposer que la Massou est abattue, donc ainsi que beaucoup beaucoup d'autres Kaminoens, même si ça n'est pas montré. Tout ça, ça reste un point de vue politique. Donc voilà, toutes ces choses là, c'est ce que j'attendais en fait depuis le début de la série. Moi, les voir là, à trois épisodes de la fin, ben, je suis content, je suis comblé. La mission d'infiltration, pour une fois, elle n'est pas neuneu. Pour une fois, elle est logique. Pour une fois, elle est cohérente. Ok, il tire pas à balles réelles. Ça m'embête toujours à ce stade-là. Moi, Scorch, j'étais très content de le voir. Découvrir la transition avec les TK et eux qui sont surpris, je trouve que ça fonctionne bien. L'ambiance, voilà, quand ils essaient de s'échapper avec le combat avec les V-Wing qui attaquent, je trouve que c'est bien parce qu'on n'a vraiment pas souvent l'occasion de les voir non plus à l'action. Et les épisodes 15 et 16, donc vraiment, cette ambiance encore plus sombre, ça manque un peu de... Si je dois émettre une petite critique, ça manque encore d'ampleur. C'est-à-dire qu'on a quelques bataillons de clones qui se promènent sur Kamino, on a quelques scientifiques caminoins qui marchent dans les couloirs, on a une ville, on a trois croiseurs Venator. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'ampleur, de voir, je ne sais pas, une quinzaine de croiseurs qui embarquent toutes les troupes et les machines qui restent dans un truc un peu grandiloquent qui ressemble un peu à la fin de l'épisode 2, qui aurait pas mal comblé la boucle au moment où on a tous ces bataillons de clones qui, eux, entrent dans les vaisseaux. Ben là, on aurait pu refaire un peu la même chose et ça aurait donné un peu plus de corps, de montrer que sur Kamino, il restait encore beaucoup de troupes, beaucoup de clones, beaucoup de machines à embarquer sur les vaisseaux. On aurait pu nous montrer beaucoup plus de Kaminoens qui étaient un peu, qui ne savaient pas sur quel pied danser et qui étaient un peu inquiets pour le futur, pour qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que c'est dommage, il nous manque un peu ce truc-là. On aurait dû avoir aussi plus d'officiers impériaux en background parce qu'on imagine mal un amiral venant superviser l'évacuation d'une planète complète tout seul. Mais par contre, j'ai pris un pied d'enfer sur les événements, sur ce qui se passe, sur la façon dont ça se passe. On l'a dit au début de l'émission, mais il y avait un plan. Ils savaient très bien qu'ils fonçaient dans un guet-apens, donc il n'y a pas de surprise au moins. Le retournement de Crosshair, on en a parlé tout à l'heure, donc moi je trouve que ça marche très bien. Quand il tue ses hommes, à ce moment-là, on peut se dire « Ah ben ça y est, allez, Disney nous refait du Disney », et non, c'est pas le cas. Alors, je suis un peu plus mitigé sur les péripéties de l'épisode 16. Même en termes de temporalité, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que entre le moment où ils coulent et le moment où ils rejoignent le labo, on peut quand même imaginer qu'il se passe plus de 20 minutes. Hein. On est plus, à mon avis, on est plus à 2-3 heures parce qu'il y avait quand même du chemin à parcourir, voire peut-être même plus. Au bout de 3 heures, il y a encore des débris qui tombent. Bon, voilà, c'est vraiment des petites incohérences. Je vais chercher un petit peu loin, mais ça fonctionne, ça se déroule bien, c'est pas chiant.
Alors, le coup des débris qui tombent au bout de plusieurs heures, ça dépend d'où est le fond. Hein. Si t'as le fond, il est à 10 mètres, oui, ça va pas.
Sylvain, il nous montre que la cité, elle touche le fond.
Ah oui, mais je passe mon temps devant National Geographic sur une émission qui s'appelle Trésor sous les mers, qui montre justement et qui ou d'autres émissions de ce type-là qui montrent des naufrages. Bah, il y a des fois, il y a des bouts de bateaux ou d'avions de plusieurs tonnes, voire plusieurs dizaines de tonnes, qui mettent des heures et des heures à couler jusqu'au fond.
D'accord.
Donc okay. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Que oui, il y a la grosse masse de type Oka qui coule, mais okay, qu'il y ait des débris qui flottent et qui tombent à certains trucs. Bon, là, le seul truc, c'est que tous les débris tombent sur Omega. Donc, à un moment...
Omega, je l'ai trouvé vraiment bien utilisé dans ces épisodes. Thomas, tu en parlais tout à l'heure, mais le coup avec Crosshair, on cède, je te la rends, maintenant, tu sais quoi, elle est plus vieille que nous, donc tu ferais bien un peu de la fermer, ça fonctionne super bien. Le seul moment où elle est nunuche, c'est quand elle envoie les Dark Troopers sur le plateau d'entraînement, mais enfin, dans sa logique, c'est logique, donc ça m'a pas choqué. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien utilisé. Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que quand ils passent dans l'eau, ben après ils sont mouillés.
Et les cheveux
bougent, contrairement à Clone Wars.
Ils sont aplatis.
Voilà, ça c'est nouveau parce que dans Clone Wars, on n'avait pas ces modèles-là. Et pour conclure, on n'en a pas parlé, mais vite fait, mais putain, mais qu'est-ce que c'est beau.
Ah, oui.
Qu'est-ce que c'est beau. Et alors, les plans de Camino, les croiseurs qui tirent avec la pluie qui tombe sur les fenêtres, les flammes, type Cassidy en flammes, c'était juste... Enfin, moi, j'étais... j'avais vraiment un pincement au cœur, quoi.
C'est
voilà.
Beau et émouvant, en fait.
On n'a pas parlé de la musique qui accompagne, mais la musique...
C'est super triste. C'est
Franchement, ça boucle bien la boucle et je trouve que ça fait son travail, ça fait son effet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la précédente émission, j'avais dit qu'on avait besoin d'une saison avant que ça se lance vraiment. Ben, si effectivement la saison 2 est de la cabide, voire même meilleure que la fin de la saison 1, ben, c'est effectivement ce qu'il nous fallait, quoi. Mm-hmm. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur ces trois épisodes?
Où est passé le clone qu'ils ont sauvé? Moi, je pensais qu'il allait venir avec eux, du coup, là, le gars.
Lequel? Ah, Gregor.
Ouais.
Il le dit, il est resté avec Sid.
Ah, d'accord. Et pourquoi il a pas... Putain, les mecs, ils le sauvent, et lui... Ouais, bah moi, je vais rester chez Sid.
T'as pas remarqué que c'est toujours comme ça? Il sauve quelqu'un qui, après, se barre.
Ouais. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Le voyais bien.
Parce que... Dis-toi quand même que Hunter, il s'est fait gauler, s'est fait capturer pour aller sauver lui. Et lui, il dit ça, lui, non, mais moi, je vais rester au bar, je vais prendre une bière, les gars, plus, vous me retrouvez demain.
Si je dis pas de bêtises, Grégor, c'est un commando, c'est un République commando.
Oui, un République commando.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout au bar?
C'est un peu le truc, ils vont en mission. C'est une mission typique pour des commandos, mais commando qu'ils ont libéré.
Ça, c'est vrai, je suis d'accord.
Reste picolé au bar.
Alors, vous faites bien de soulever le problème de Gregor parce que ça fait écho à Hauser sur
l'épisode d'avant.
La planète des Twi'leks.
Sur Rylot, ouais.
Rylot, oui. Merci. Du coup, ça nous fait deux clones de plus, bon, sur des millions, mais qui ont soit une puce défaillante, soit des états de conscience qui sont au-delà de l'ordre 66.
Alors, pour les commandos, rien ne nous prouve qu'ils soient pucés.
D'accord.
Mais effectivement, on pourrait le supposer. Moi, j'en ai déduit que seuls les clones qui étaient à proximité de Jedi avait reçu l'ordre 66 et pas la totalité de la galaxie, puisqu'il n'y aurait pas d'intérêt à déclencher un ordre 66 chez des clones qui n'ont pas de Jedi. Ce qui pourrait expliquer que Hauser est lui un peu détaché, enfin il n'a pas le même comportement que les autres clones qu'on voit au début de la saison, mais c'est une pure supputation et aucun élément dans la série ne nous permet d'arriver à cette conclusion.
Moi, j'avais tendance à penser que c'était les clones qui avaient une plus forte personnalité. Un peu comme, tu sais, t'as des gens qui bloquent la force, tu sais, sur la manipulation de force, et ben, que certains, ils arrivent à résister à la puce parce que ils ont plus de force intérieure.
Ouais, comme Batman.
Voilà.
C'est assez paradoxe. Je trouve que le coup de la puce est de l'ordre 66, c'est assez paradoxal parce que le troufion de base aurait la puce pour le contrôler. Mais pas forcément, comme tu dis, les commandos, on ne sait pas s'ils ont une puce. Sauf que la Bad Batch en avait. C'est ce que, à moins que je dormais déjà, mais c'est ce que Loïc a dit. On n'est pas sûr que Gregor ou...
Non, on n'est pas sûr. Rien ne prouve.
Et Gregor est un commando.
Alors, Gregor apparaît dans Rebels. Alors, je vais m'auto-censurer. Gregor apparaît dans Rebels, et si je me souviens bien, il est avec Wolf et Rex, et les trois ont une cicatrice sur la tempe. Ce qui indiquerait que sa puce a été enlevée. Mais à quel moment, ça, on ne sait pas.
C'est là où je voulais le revenir. Pour moi, ce ne serait pas normal, ce ne serait pas logique que les clones de base, les clones Troufion et des puces, et pas... les commandos, les arcs et autres qui sont censés être plus intelligents, plus indépendants, donc forcément plus mieux quoi et plus réfléchis. Des gars comme ça, pour leur faire assassiner leur commandant en chef, t'as intérêt à avoir les bons arguments. Et si t'as un argument comme une puce que tu peux activer directement dans leur crâne, ça va plus vite.
Oui, c'est vrai.
Donc ce serait pas logique que des que même les commandants n'aient pas de ou les RC n'aient pas de puce.
Ce serait pas logique, mais effectivement ça c'est la puce c'est encore en suspens, on n'a pas vraiment toutes les infos. Alors Effectivement, donc je cherche une image de Grégor. Grégor a bien sur le côté de son crâne une cicatrice qui indique que la puce a été retirée, sauf qu'on ne sait pas quand. Et ça pourrait être caché par ses cheveux. Donc,
Si je dis pas de bêtises, Crosshair, il a pas de cicatrice, lui. Alors qu'il dit...
semble que si.
Non, pas une cicatrice de brûlure qu'il a là, mais je vois pas de cicatrice sur sa tempe. Il a le tatouage, ouais, Crosshair.
Mais Crosshair, il a toujours la puce et ils l'ont augmenté.
Oui, c'est ça.
Non, lui dit dans l'épisode qu'ils lui ont tiré la puce.
Mais il dit des conneries.
Bah oui, il dit
ils lui ont augmenté sa puce.
Je l'ai revu dans l'épisode 1, donc ça joue peut-être aussi sur le fait qu'il est un peu plus psychopathe, quoi.
Il y a ça aussi qui peut peut-être jouer.
Peut-être qu'il justement il essaie de leur dire ça pour les amadouer.
Ouais.
Pour les amadouer, ça serait pas logique.
Parce qu'il... Non, mais il était hésitant, et du coup, ils lui ont dit, attends, on va te mettre la version un peu plus costaud, là, et pouf, là, du coup, et lui, on lui a dit, bah, t'inquiète, on t'a géré ta puce. Donc lui, il se dit, bah, soit il leur ment sciemment, tout en sachant qu'il a la nouvelle puce, soit en fait, le gars, il croit qu'on lui a enlevé et que c'est lui qui pense comme ça.
Et ce serait idiot. Encore une fois, ce serait pas logique. Si le but de Crosshair, c'est de refaire copain-copain avec ses frangins, comme il sait que maintenant, ils sont indépendants, il a qu'à jouer la carte du « Oui, mais je ne peux pas faire autrement, j'ai la puce. »
Tout à fait.
Si tu leur dis
sauf que la puce peut-être influence ton raisonnement aussi, tu vois, et ta réflexion.
Non, ça peut... Non. Non, c'est la puce ne doit être là que pour te faire exécuter des ordres.
Oui, mais ils ont mis la nouvelle puce.
La mise à jour.
C'est une puce 5G qu'ils lui ont mis, c'est ça ?
Exactement.
Et du coup, il est bien vacciné contre le Covid aussi.
C'est ça, voilà.
Non, le seul moyen qu'aurait Crosshair, le seul moyen qu'aurait Crosshair pour amadouer ses frangins et de les faire revenir ou de pouvoir réintégrer la Bad Batch, ce serait de leur dire qu'il a la puce, qu'il est sous l'influence de la puce. S'il leur dit qu'il a pu la puce, donc qu'il a son libre arbitre, donc qu'il se comporte comme un gros con face à eux sciemment, ils vont jamais...
Oui, mais comme il a la puce, il a l'idéologie qui est greffée en lui de l'Empire, si ça se trouve. Il peut pas faire un truc qui aille contre l'Empire et pour ses frères, même si dans le fond, son cœur en a envie, quoi.
Alors, moi, pour moi, au vu des images de Crosshair, il n'y a pas de cicatrice. Ou alors, elle est passée sous la marque qui est de brûlure.
Ouais, c'est
sur
ça.
La marque de brûlure.
Mais en tout cas, c'est pas apparent. Donc, il a pu très bien, effectivement, les induire en erreur.
Mais non, mais il le perd. Il y a un épisode où il le refoute dans la machine. Il lui dit, t'inquiète, Coco.
Oui, mais c'est là qu'ils augmentent la puce.
Ça, c'est dans le premier épisode.
Ouais.
Premier ou deuxième.
Dans le premier ou le deuxième.
Voilà, c'est au début de la série. Après, il leur dit, à la fin de la série, qu'il a pu la puce. Mais si ça se... On pourrait très bien imaginer que l'un des scénaristes décide de faire un spin-off à The Bad Batch qui t'explique qu'entre l'épisode 2... et l'épisode 15, Crosshair, il est parti sur Tatooine, il a rencontré Luke Skywalker enfant, et qui lui a mis un grand coup de râteau de râteau dans la tempe, et qui lui a retiré la puce.
Ouais. Non mais c'est ça, Sylvain, c'est ça, je pense. Il va bientôt y avoir une annonce de Disney, je vois pas autre chose.
Attends, j'essaie de retrouver les images... Que j'ai de Crosshair. Et
on est revenu sur Crosshair alors qu'on parlait d'autre chose. Qu'est-ce qu'on disait ?
Ben,
T'as pas l'impression qu'il est amoureux de son frère mais qu'il ose pas lui dire là dans le regard qu'il lui fait là ?
Ouais, c'est chaud là.
Il y aura peut-être un spin-off là-dessus nous expliquer qu'ils se sont roulés une galoche et qu'il lui en veut.
Non, mais peut-être que s'il lui avait mis un poing dans la gueule, ça aurait été bien aussi. Mais
en plus, c'est il y a la cible, il n'y a plus qu'à taper là, tu vois.
Viser ici.
Donc voilà, non, je ne sais plus sur quoi on était parti à l'origine. Alors, ce que je vous propose, c'est que on passe à une conclusion assez rapide de nos impressions de cette saison 1 et une projection de ce que vous attendez.
Alors, je vais chercher de la batterie pour mon PC. Revenez,
et si vous y revenez aussi, sur la saison 2, quelles seraient vos attentes pour cette saison ? Alors, qui veut commencer ? Aude, vas-y.
Non, pas moi.
Pas toi. Bon, Sylvain.
Bah, je vais commencer parce que l'autre pépère, il a été branché son PC. Un bilan... le bilan de la saison mitigé. Il y a des trucs qui m'ont plu. C'est magnifique, c'est très bien animé.
Non, voilà.
Mais il y a trop d'épisodes, pour moi, il y a trop d'épisodes qui ne servent à rien. C'est la série a pris 16 épisodes pour raconter pas grand chose. Les thèmes qui, moi, m'auraient plu, la transformation de l'armée de clones en armée de conscrits, le conflit entre la Bad Batch et Crosshair est pour moi trop survolé dans cette saison-là. Tout ce qui est autour, même le secret ou le truc autour d'Omega, c'est même plus, ça m'intéresse même plus parce que je suis pas sûr qu'ils savent où ils veulent aller. Parce que là encore une fois, c'est survolé. Donc, un bilan mitigé vraiment pour cette saison 1. Et si la saison 2, j'espère que, pas qu'elle sera plus rapide, mais que les épisodes diront plus de choses sur la Bad Batch, sur Crosshair, sur l'Empire. Attention, Thomas, on entend tout ce que tu fais. Voilà, peut-être autant d'épisodes, mais à la manière de Rebels, c'est où on enchaînait 3 ou 4 épisodes qui forment des vrais arcs pour aller pour intégrer pour faire une saison complète.
Aude, à toi, ton petit bilan.
Eh ben, je vais rebondir tout de suite avant d'oublier sur un truc que Sylvain a dit. Finalement, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur Omega. Et au début, ça nous tenait en haleine. Et puis au final, c'est juste un nouveau membre de la Bad Batch. Et le mystère de ses origines n'a pas su être entretenu et nous hyper pour la suite. Donc comme disait Sylvain, finalement, maintenant, on s'en fout. Non pas qu'on l'accepte telle comme elle est, autant que la Bad Batch, mais ils ont réussi à faire retomber l'intérêt qu'il y avait pour ses origines mystérieuses. Ça, c'est très dommage. De l'inégalité, mais j'ai envie de dire comme dans un dessin animé, puisque c'est ce que c'est finalement, sur des épisodes parfois inintéressants, parfois un petit peu intéressants, et puis qui retombent vite dans du gnan-gnan pour enfants. Mais je vais redire ce que tu avais dit plusieurs fois, Loïc, c'est qu'il faut pas oublier que quand on a regardé The Clone Wars et Rebels, ça devait nous faire sûrement la même sensation, sauf pour ceux qui l'ont binge-watché, qui avaient tous les arcs à disposition avec plusieurs saisons, comme ça a été mon cas. Mais on a oublié que c'était des séries pour enfants, par rapport à la beauté de certains discours ou à l'affection qu'on avait pour certains personnages. On n'a encore évidemment pas juste avec une saison sur cette nouvelle série. Même si on a en effet de temps en temps des personnages qu'on connaît qui reviennent, on n'a peut-être pas encore eu le temps de bien s'attacher à certains personnages pour s'impliquer dans des arcs importants les concernant. Pour l'instant, il y a eu des événements importants, mais c'est trop sporadique. Un petit coup là, un petit coup là. Il n'y a pas eu, comme disait Sylvain, un gros arc qui s'y tiendrait sur 3 épisodes, quitte à en bouffer sur 3 épisodes, mais au moins tu conclus vraiment quelque chose et tu donnes beaucoup d'informations, beaucoup d'explications. Ça reste, je trouve, survolé et enfantin, de manière à ce que ce soit compréhensible, peut-être plus par les enfants. Voilà, mais visuellement, ça nous fait plaisir à nous, les adultes.
Thomas ?
Alors, bizarrement, je suis quand même d'accord avec Sylvain et Aude, à savoir que même si j'ai bien aimé Bad Batch, au final, il y a quand même beaucoup d'épisodes qui sont... Et moi, même à la maison, on dit, voilà, c'est pour les enfants. Mais au départ, moi, les gosses, ils aimaient pas des masses Bad Batch. Ils ont bien aimé le tout premier. Ma fille me disait, oh non, moi, ça me saoule. Et en fait, ils ont commencé d'accrocher à partir du moment où il y a eu Rex. Comme quoi, finalement, on doit être finophile, philonifile. Puisque du coup dès qu'il y a eu ces accroches, puis on a commencé aussi avec le temps, je pense, à construire un peu d'affect sur les personnages. Alors effectivement, comme dit Aude, on n'a pas 8 ans de saison derrière, mais ça y est, les personnages, on commence à bien les apprécier et à avoir un affect pour eux, donc ça c'est intéressant. Et par contre, les quelques épisodes qui sont bien sont vraiment cool. Et c'est vrai que l'aspect politique est très sympa. Les Kaminoens, c'est vraiment un bon moment où on sent un petit peu l'obscurantisme qui s'écrase. Ma fille me dit, bah en fait, vaut peut-être éviter de faire des contrats avec l'Empire finalement, parce que on gagne beaucoup de sous tout de suite, mais après on a des ennuis. Bah, je dis oui, effectivement. Et c'est effectivement, on sait qu'on a des organisations, même dans notre vie de tous les jours, avec lesquelles il vaut mieux pas être copain. Hein. Demande à un mafieux de te prêter des sous, même quand tu l'auras remboursé avec beaucoup d'intérêt, il y aura toujours une dette qui restera et ça te pètera toujours un jour à la gueule. Là, c'est un peu ça l'idée, c'est que voilà, on sent cet environnement malsain. Je suis un peu déçu parce que j'espère qu'il va nous rester des Kaminoens, hein, qu'il ne reste pas juste la scientifique, parce que je trouve que c'était une race qui était vraiment intéressante, qui avait vraiment des particularités, donc j'espère que ailleurs dans la planète, on en a d'autres, quoi.
Non, alors Thomas s'est dit que ils ont transféré tous les personnels scientifiques, même si à la fin on ne voit que Nalassé. Et par contre, ils ont bien éradiqué toutes les plateformes de toute la planète, puisque
de toute la planète.
Quand ils sont sur la plateforme finale et qu'ils voient encore la fumée de l'incendie de Typhoca City, au fond il y a encore un incendie beaucoup plus loin. Et le clone qui vient informer l'amiral Rempart que tout a été détruit insiste bien sur le fait que tout a été détruit.
Alors après, je voudrais pas débattre sur les Kaminoens, mais je me suis toujours demandé, comme c'était une race d'amphibiens, est-ce que c'est pas comme les calamariens et les Quarren, est-ce qu'ils existent pas sous l'eau aussi, en dehors de leurs installations?
En tout cas,
s'ils sont originaires de cette planète.
Dans le canon, on l'a pas, mais dans l'univers légende, ils expliquaient, si mes souvenirs sont justes, que c'était une race amphibienne à l'origine,
qui avait évolué.
Mais qu'elle était plus qu'elle avait plus ses caractéristiques.
Après, on peut supposer qu'il y ait d'autres Kaminoens bien informés comme Omega qui connaissent des plateformes secrètes comme Omega et qui se soient
ou des anciennes bases, oui certainement,
ou des anciennes bases ou des anciens avant-postes.
Voilà. Moi, je serais pas surpris.
Bah oui, ouais. Des tunnels, oui. Des trucs, et hop, ils se barrent, et puis ils attendent des jours meilleurs, quoi.
Parce que moi, je connais
une princesse, sa planète a été détruite, et elle a retrouvé plein de potes à elle qui étaient sur les autres planètes, les Alderaniens, t'en trouves partout, quoi, franchement, dans la galaxie. Donc, voilà, et visuellement magnifique, donc, globalement, je suis plutôt content, même s'il y a des moments où on se fait un peu chier, mais je pense que la saison 2 va être cool, mais on en parle après.
Maintenant, justement, est-ce que tu veux nous donner un peu tes attentes pour cette
série? Toi, t'as pas donné ton
mais
ton
tout le monde a donné ses attentes, alors tout le monde a fait l'enchaînement.
Ah, d'accord, je fais l'enchaînement. Alors moi, j'aimerais bien qu'on voit ce que deviennent les clones, ça c'est évident. J'aimerais bien voir toujours plus de politique, comment ça se passe. Par exemple, sur Rylot, c'était intéressant, mais pas juste, il y a des grands méchants, ils nous envahissent. J'aimerais que ce soit un peu plus subtil, c'est-à-dire que j'aimerais que les mecs... dominent les citoyens, mais de manière un peu insidieuse, qu'on le voit se greffer petit à petit. Et j'aimerais bien qu'on voit le point de vue des gens qui sont pro Empire, comme on le voit avec Valence là dans le Bounty Hunter 2 que je suis en train de lire en ce moment. Je t'ai envoyé la photo, lui, on sent qu'il y a des gens qui ont ces idéologies de l'Empire, sans quoi on n'aurait pas de gens qui s'engageraient dans l'Empire. J'aimerais bien qu'on ait ces deux points de vue, qu'on voit les idéologies et qu'on voit les tranches de vie sous l'Empire, des deux points de vue. Ça, c'est très intéressant. Bon, après, j'aimerais bien qu'on continue de voir la Bad Batch. Et parce que je suis fan, je voudrais des filonades.
Merci, Thomas. Donc, moi, pour ma part, donc, vous avez martelé que c'était une série pour enfants. Donc, moi, j'ai perdu mes enfants en cours de série, justement. Ils ont décroché à l'épisode 13,
ça va,
justement.
Ça pas trop de la peine.
Non, il a un smile depuis, là, regarde.
Tu tiens le coup
Ah ouais, j'aimerais bien ça.
J'en ai pris des autres pour compenser. Donc,
ah, c'est toi dans le journal, ok, d'accord.
Oui. Donc, à l'épisode 13, après l'épisode de la ruche, ils ont dit, les deux plus jeunes, Donc, j'ai pas envie, je viens pas regarder. Ok. Donc, j'ai regardé avec le grand, donc cet épisode 14 sur l'infiltration avec les commandos et tout ça. Et puis, on a adoré tous les deux. Et puis, l'épisode 15, donc on l'a regardé à deux. Et puis, j'ai quand même réussi à les attirer à nouveau sur l'épisode 16, mais ils étaient un peu déçus parce qu'on leur avait, comme tu as dit Thomas tout à l'heure, on leur avait vendu l'épisode 14 et l'épisode 15 qui étaient vachement bien. Et puis l'épisode 16 est quand même beaucoup plus intimiste. Donc en termes d'enjeux et en termes de grands spectacles, on n'y est pas. Donc ils étaient un peu déçus. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, même une série pour enfants peut réussir à perdre son cœur de cible. Mais moi, je reste convaincu que c'était une série qui reste intéressante pour tous les points qu'on a évoqués, même si c'est totalement perfectible, et ça, j'en conviens tout à fait. Moi, j'ai fait un petit, pour moi-même, un petit bilan des épisodes que je regarderai, en fait, à nouveau, si j'avais envie de me faire des Bad Batch. Quels sont les épisodes que je regarderai? Donc, j'en retiens les 4 premiers, les 2 avec Rex, les 2 sur Rylot et les 3 derniers, ce qui fait quand même un total de 11 épisodes sur 16. Donc, je considère que si j'ai 11 épisodes qui m'ont intéressé et sur lesquels j'ai envie de revenir, et 5 épisodes filler que j'ai pas aimé, voire pour certains vraiment aller entre les deux, ben je me dis que finalement quand même le contrat il est quand même rempli, donc c'est intéressant. Et moi j'ai envie de dire à tout le monde de quand même aller voir cette série pour toutes les raisons qu'on a évoquées de contexte géopolitique, de transition entre deux trilogies qui sont quand même des choses qu'on attend et qu'on a attendu pendant longtemps, qu'on a vu aussi dans les films. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais vraiment comme un fou quand je découvrais le design de La Revanche des Sith, parce que ça amenait une transition vers ce qu'on connaissait déjà et que j'avais envie de le voir. Et ben là, on s'en rapproche un petit peu plus. Peut-être que dans la saison prochaine, on aura des chasseurs taille ou autres, ou des prototypes qui vont arriver. Il y a une grosse inconnue dans cette saison dont on n'a pas parlé, c'est la temporalité. On ne sait absolument pas combien de temps se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 16. Pour moi, il se passe quand même un certain temps, au minimum une bonne année.
3 heures à peu
près. Non, il y a quand même une bonne année. On voit qu'il y a des choses qui s'installent sur la durée, etc. Donc, ça pourrait aussi nous donner une indication sur la conscription et sur l'entraînement des premiers Stormtroopers. Donc voilà, ça c'est...
Moi, je préfère cette saison, en tout cas. Hein.
Oui.
Bah, s'ils veulent.
S'ils veulent, mais ils ne le feront pas. Si je devais mettre une note, je mettrais un bon 15 sur 20, d'autant avec cette fin qui m'a beaucoup accroché, même, je dirais même cette scène finale que je trouve intrigante et qui me plaît beaucoup. Concernant mes attentes pour une saison 2 éventuelle, moi j'aimerais toujours un affrontement entre des Stormtroopers et les clones, que les clones se mutinent, que les clones se rebellent après la destruction de leur foyer. Mmh. Hein, je veux dire, on sent que le clone qui vient annoncer la destruction de Kamino, il n'est pas trop à l'aise avec ce qui s'est passé, donc pourquoi pas développer quelque chose où, pas forcément tous les clones, mais une grosse faction de clones qui rencontrerait la Bad Batch et qui arriverait à changer d'avis. Le personnage le plus intéressant pour moi de cette équipe, hormis le personnage que j'aime beaucoup, c'est Tech, mais le personnage le plus intéressant pour moi, comme on l'a dit tout à l'heure, ça reste quand même Crosshair. Donc j'aimerais vraiment en voir beaucoup plus.
Ça.
C'est ça. Non, c'est que c'est le personnage finalement qui est le plus intéressant, le moins manichéen. En fait. Non, bah quand même pas, non.
Déjà que tu te déguises en Empereur Palpatine, maintenant tu nous c'est dis ça. Que ton préféré c'est Crosshair. Voilà, faut le c'est fréquenter, ça. Loïc, donc, mais pas trop près.
Non, je pense que c'est celui qui a le plus gros potentiel, en fait, pour toutes les raisons que Aude a évoquées. Donc, les autres sont beaucoup plus manichéens, même si j'ai un faible pour Tech, que j'aime beaucoup, et notamment son humour qui, pour moi, fait mouche à chaque fois. Ouais. Donc, voilà. J'aimerais voir l'empereur qui viendrait sur Wayland pour nous expliquer un petit peu son plan un peu caché. Wayland qui pourrait d'ailleurs être. En tout cas, moi, j'espère être réutilisé dans la série Ahsoka ou dans cette temporalité du Mandalorian pour nous ramener le retour de Thrawn. On a quand même une Jedi, Ahsoka, qui pourrait être confrontée à un clone de Luke, à un clone de Anakin, à un clone d'elle-même, pourquoi pas. Ça,
un peu chaque, en fait, pour bien lier le tout ensemble. Après, on apprendrait, en fait, que c'est des débris.
Comme Ahsoka, un Gogeta, tu sais. Tout ça.
Et ils ont rattaché les morceaux ensemble.
Alors, tu vas un peu loin.
Et ça a fait Snoke. Mais c'était prévu par Palpatine, hein, vous inquiétez pas.
Donc, tu trolles un petit peu et tu casses mon délire de relecture de l'héritier de l'Empire avec un...
Mais en fait, tu veux les héritiers de l'Empire avec Ahsoka à la place de Luke, quoi.
Attends, on nous ramène Thrawn. On nous ramène Thrawn, on nous ramène un Empire qui a perdu, on nous ramène un... on nous ramène Wayland, le Montantis et des cylindres de clonage. Je veux dire, tout est là. Ça ne veut pas dire que ce sera bien fait, mais en tout cas, j'aurais envie de le voir. Donc voilà
Moi, vu qu'on est sur la planète Wayland, moi, je veux Sigourney Weaver, je veux Newt, je veux aussi des androïdes. Ceux qui n'ont pas compris la référence, vous allez voir Alien et vous me cassez pas les roustons.
Donc voilà moi pour mes attentes sur la saison 2 de Bad Batch. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une souhaite ajouter quelque chose sur ces épisodes ?
Non. Les derniers épisodes là qu'on a vus ?
Ouais, sur ça ou sur les attentes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de plus à dire ?
Non.
Non, pas moi.
Donc ça va conclure donc. Oui.
Si moi j'ai un truc à rajouter, c'est que du coup ça m'a généré beaucoup d'attentes pour les séries live. À savoir Mandalorian, Ahsoka et compagnie. Parce que du coup, moi, ce que j'attends dans les prochaines saisons, que ce soit Boba Fett, j'attends bien des trucs sur Omega, sur j'attends des liens avec Boba Fett, j'attends des liens avec la saison 3 du Mandalorian. Et j'attends aussi peut-être quelque chose avec la série Cassian Andor. Est-ce que à ce moment-là, les gars de la Bad Batch, vous pourrez pas les voir en vrai ? Ils seraient pas encore assez vieux pour faire partie des rebelles ? Et qu'on croiserait tout ça pour faire une belle tambouille, ça me plairait. Voilà.
Bah, on peut aussi imaginer que les Bad Batch vont quand même se rapprocher de la rébellion.
C'est pas. Oui, c'est ça. Oui. Et je les verrais bien voir rencontrer Bail Organa ou des trucs comme ça.
Je suis sûr que Sylvain est fan de cette idée déjà d'avance.
Oui. D'ailleurs, il a appelé son chat Omega. D'ailleurs, tiens, pendant qu'il est pas là, on va. Si jamais il réécoute l'émission, il pourra confirmer après.
Voilà. Ben, sur ces belles paroles, on va conclure cette édition de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, si vous avez envie de réagir, de discuter avec nous sur ces sujets de la Bad Batch ou autre, vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse studio@swendirect.com. Mais surtout, vous pouvez nous laisser un message sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, Twitter, Instagram, mais c'est pas là où on est le plus présent. Ça restera quand même sur Facebook, YouTube. Et évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord. On a quand même une belle communauté. On a des débats enflammés, pas toujours, selon l'actualité. En tout cas, on a quand même toujours une communauté qui débriefe dans la bienveillance de toutes les sorties Star Wars, de tout ce qu'on peut se mettre sous la dent. On rappelle donc qu'on est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast et Amazon Music. Voilà, et donc de la part de Aude, de Sylvain, de Thomas et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct et que la force soit avec vous.